Bonsoir. Merci à vous tous d'être là. Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Christophe Ruffin pour ce nouveau livre. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour le quarto, non, je crois. Le quarto. Oui, il me semble. Qui reprenait plusieurs romans sous le titre de « Aventure heureuse ». Je ne sais pas si c'est une aventure heureuse, là, mais on va en parler. Alors, Jean-Christophe, tu es ou tu as été, mais je crois que quand on a été, on est toujours médecin, écrivain, plus que jamais, diplomate, prix Goncourt en 2001 avec Rouge Brésil, académicien depuis 2008. J'ai compté, j'ai l'impression que c'est le 30e livre, alors je sais pas si toi tu as compté de ton côté, mais non, c'est... En tout cas, il me semble que c'est le 30e, donc bon anniversaire. Tu as commencé avec des essais, notamment. Alors ça, c'était ta partie, l'époque où tu étais surtout médecin, et puis que tu as commencé à basculer un peu dans la politique. Alors, tu as une double formation, à la fois de médecine, évidemment, et aussi d'Institut de politique de Paris. Dans tes romans, on a le sentiment que, en tout cas, les relations internationales sont beaucoup plus présentes que la médecine. T'as tourné la page de la médecine ?
Alors d'abord, bonsoir à tous et merci de m'accueillir de nouveau à Clermont dans cette belle librairie que j'admire parce qu'elle est... Déjà par son histoire et puis par sa qualité et le temps qu'elle réserve aux rencontres est un très bel établissement. Je suis toujours heureux de revenir à Clermont, d'autant plus que moi je suis un homme du centre quand même. Donc là je viens de chez moi à Bourges. Alors alors vous pensez peut-être être au centre, mais nous on est encore plus au centre. Hein. Voilà. Et donc c'est vraiment un plaisir et merci d'être là.
Je t'interromps, tu sais qu'on a un petit problème avec Bourges, là, nous, ici.
Oui, mais il faut se dire que cette histoire de capitale européenne de la culture est faite pour égaliser un petit peu les villes. Alors, Clermont a beaucoup de chance, et Bourges en avait moins. Alors, on peut estimer que c'est une sorte de réparation, voilà. Mais bon, et en plus j'y suis pour rien, surtout ça c'est... En tout cas, pour répondre à ta question, oui, la médecine effectivement n'est peut-être pas présente explicitement, mais elle l'est parce que je pense que le regard médical, finalement ce qu'on apprend quand on fait des études de médecine, donc à l'âge crucial de la vie, à 20 ans, c'est là qu'on crée finalement son approche du monde et qu'on choisit finalement la manière dont on va envisager le rapport avec le monde. Ça, c'est unique et ça, comme tu l'as dit, ça reste toute la vie. C'est-à-dire que l'attention que le médecin porte aux autres, le fait que tout ce pour le médecin passe par l'intermédiaire de la personne qu'il a devant lui... Ça, c'est valable qu'on exerce la médecine ou qu'on écrive des romans. C'est-à-dire que c'est une façon... ou qu'on écrive tout court. Parce que, justement, moi, j'ai commencé, tu l'as dit, par des essais. Et je me suis très vite rendu compte que ça ne correspondait pas, justement, à cette vision individuelle, personnelle, psychologique du monde. Et qu'il fallait revenir à la personne, revenir à l'individu. Et c'est pour ça que ce qui est merveilleux avec le roman, c'est que finalement, tout s'incarne, tout se passe, tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut éventuellement essayer de montrer ou de démontrer passe par l'incarnation, donc par des personnages. Et de ce point de vue, c'est peut-être un peu médical.
Et d'autant que la médecine telle que tu l'as pratiquée... a certainement été très inspirante dans le sens où alors il y a les grands engagements, alors il y a Médecins sans frontières, Action contre la faim, tu t'es retrouvé dans différents pays, parfois j'imagine dans des situations pas forcément évidentes ou qui t'ont certainement amené à rencontrer beaucoup de monde et que tous ces gens-là finalement on les retrouve un peu comme ça au fil des romans.
Oui, en fait, c'est un grand privilège finalement, à travers la médecine, que d'avoir été en contact très tôt, vraiment très tôt. Moi, j'avais 23 ans quand j'ai passé l'internat. À l'époque, c'était un internat par ville. Donc, j'ai été reçu à Paris, à l'internat des hôpitaux de Paris. Donc, à 23 ans, j'avais une salle dont j'avais la responsabilité, etc. Et j'étais en relation finalement avec des personnes qui étaient toutes en souffrance, c'est-à-dire qu'il y avait la maladie, la mort, l'émotion, tout ça, c'est des choses avec lesquelles on est en contact quand on est médecin très tôt. Alors après, je dirais peu importe le cadre, mais c'est vrai que moi j'avais eu cette formation technique finalement des hôpitaux, des grands hôpitaux français. Et en fait, moi, ce qui a basculé, c'était le service militaire, parce que je suis parti comme coopérant en Tunisie. Puis alors, les militaires sont très organisés, mais enfin, il arrive qu'ils se trompent. Alors moi, j'avais demandé la neurologie et ils m'ont mis dans une maternité, vous voyez. Alors j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, je ne m'y attendais pas, c'était original. Mais finalement, ça m'a pas vraiment donné la vocation de l'obstétrique, mais enfin, ça a été l'occasion d'une sorte de basculement, c'est-à-dire que je pensais naïvement à l'époque que être médecin, ça consistait finalement à distinguer les maladies, que au fond l'être humain était le même partout, puis que il y avait les maladies étaient différentes et que mon métier c'était de différencier les maladies. Voilà, vous avez ça, etc. Puis quand j'ai pratiqué dans ce monde très différent qui était une maternité en terre d'islam avec une espèce de c'était très dur en fait, hein, on avait en plus peu de matériel et tout ça. Et là je me suis rendu compte que c'était un peu le contraire, c'est-à-dire qu'au fond les maladies étaient les mêmes partout, en gros. Pas tout à fait vrai, mais et ce qui change, c'est quand même la personne qui est devant vous. Et au fond, si on quitte le plan technique pour essayer d'aller derrière sur le plan humain, si vous voulez, alors là, on entre dans la diversité des personnes, la diversité des sociétés, et ça devient encore beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que peu après, comme j'ai voulu prolonger cette expérience, et que c'était l'époque de la création des ONG type Médecins Sans Frontières. Alors toi, tu n'étais pas né, bien sûr, mais enfin, c'était le tout début, hein, c'était vraiment les... et j'ai eu la chance de participer à cette naissance, finalement. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'engagement humanitaire, on parle de personnes qui vont travailler ou dans le cadre d'organisations qui existent. Nous, c'était pas du tout ça. On travaillait pas beaucoup parce que les organisations qu'on était en train de créer n'existaient pas pratiquement. Donc leur efficacité était très très limitée. Mais en revanche, on crée un outil. C'est-à-dire, il y avait eu cette intuition de Kouchner et de quelques autres, d'un de vos voisins aussi, Claude Maluret, de Vichy, qui avait pensé qu'en effet, on pouvait agir de façon indépendante des États et avec des instruments qu'on pouvait créer soi-même. Donc on a créé tout ça et c'était évidemment passionnant. Et alors évidemment, ça élargissait aussi sur la question politique, puisque... Dans tous les endroits où on a été amené à intervenir, qu'il s'agisse de guerre, qu'il s'agisse de révolution, qu'il s'agisse de camps de réfugiés, etc., la question politique, évidemment, se posait tout de suite.
Et ça, d'ailleurs, tu es passé par l'Institut d'études politiques. Est-ce que ça ressemblait à une mise en pratique Est-ce que la théorie ou est-ce que la pratique ressemblait à la théorie là aussi? Parce que pour la médecine, tu as fait la même chose. Tu es passé de la théorie à la pratique et dans ces relations politiques, justement. Alors, j'insiste un peu là-dessus, mais parce qu'il en est beaucoup question dans le livre, évidemment. Oui, on a le sentiment que... Est-ce que ça a été très formateur
Non, en fait, quand on a commencé à créer ces outils, donc ces ONG, Moi, j'ai vu, c'était. Enfin, il faut imaginer que Médecins sans frontières, à l'époque où j'y étais, c'était grand comme cette scène. Il y avait deux petites pièces. C'était rien du tout. Hein. Donc, c'était un outil qui se créait et dont on ne connaissait pas l'usage parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On voyait bien que ce n'était pas la Croix-Rouge, que ce n'était pas les Nations Unies, que c'était. Mais qu'est-ce que c'était? Et au fond, comment trouver sa place dans un monde qu'on connaissait mal, finalement. Voilà. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et. J'ai jamais voulu avoir un engagement politique direct, je ne me suis jamais présenté à des élections ni rien, mais je me suis toujours intéressé au sujet politique, c'est-à-dire, et bah, je me suis dit, bon, je vais aller voir du côté de Sciences Po s'ils me prendraient. Alors, ils aiment bien toujours prendre des candidats extérieurs, si vous voulez, il y a toujours un pompier, un séminariste, enfin bref. Et donc là, ils ont pris un médecin, puis. Voilà, et ce qui était assez amusant, c'est que c'était une période qui était la fin de la guerre froide, donc dans laquelle les gens sérieux, qui étaient donc nos professeurs en fait, ne s'intéressaient qu'à des guerres qui n'existaient pas. C'est-à-dire c'était la guerre nucléaire, c'était l'équilibre des forces entre les missiles soviétiques, les missiles américains, etc. Bon. Voilà. Et les guerres réelles, c'est-à-dire ce que Christophe de Pontfilly appelait les poussières de guerre, c'est-à-dire tous ces conflits dans des pays un peu oubliés, etc., bah, au fond, ils les connaissaient généralement pas. Et nous, on les connaissait mieux parce qu'on y allait. Et donc on s'est assez vite rendu compte qu'ils ne pouvaient pas beaucoup nous aider dans la connaissance de tout ça. Et qu'inversement, alors on est assez. Moi, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai fait un séminaire, je suis devenu enseignant là-dedans, parce que finalement, l'expérience qu'on avait de ces conflits nous permettait de réfléchir dessus et de créer finalement la théorie de notre pratique, c'est-à-dire que c'est nous qui essayons de comprendre ce qu'on faisait, les pièges dans lesquels on pouvait tomber. Et voilà, c'était. Donc, finalement, Sciences Po, ça m'a servi à rien, quoi. Voilà. Enfin, si je veux résumer.
C'est très, très, très bien résumé. Alors, du coup, on en arrive à D'or et de jungle, ce roman pour lequel tu viens nous voir. On est dans, c'est presque un roman de genre. On serait dans l'Uchronie. Alors, j'ai pas le sentiment que ce soit un. Enfin, je crois pas. En tout cas, j'ai vérifié un genre que tu as déjà exploré. On avait eu droit à la dystopie avec Globalia. Mais l'Uchronie, jamais. Alors l'Uchronie, on part d'un point réel et c'est juste une variation ou une hypothèse en partant de notre situation d'aujourd'hui. On peut dire que c'est à peine exagéré.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. L'Uchronie, je pense que c'est. Enfin, moi, je ne mettrais pas la même définition. L'Uchronie, c'est par exemple le fait d'imaginer, et c'est Laurent Binet qui avait fait un livre là-dessus, que ce n'est pas les conquistadors qui ont conquis l'Amérique, mais les Indiens qui ont conquis l'Europe, par exemple. Bon, bah, voilà. Ça, ce n'est pas du tout. Ce livre d'Or et de Jungle, c'est un livre contemporain, c'est un roman d'aventure pour moi. C'est-à-dire c'est qu'avec une priorité donnée constamment à l'action, à l'aspect romanesque, au personnage, etc. Alors, c'est une uchronie au sens où ça décrit des événements qui ne sont pas produits tels quels. Mais ils sont pas, c'est pas de l'anticipation, c'est pas 2080 avec des petits hommes verts, avec des antennes sur la tête.
Ou alors c'est l'anticipation du mois prochain. Mais...
Voilà, c'est ce que les Américains appellent la proche anticipation. C'est-à-dire que c'est au fond... placer une loupe sur le monde d'aujourd'hui et regarder peut-être grossir un peu certains traits qui nous montrent un peu dans quelle direction ça va. Mais pour moi, c'était surtout... je voulais surtout rester fidèle à cette tradition du roman d'aventure parce que parmi les romanciers d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent, avec plus ou moins de bonheur, mais qui cherchent à transformer la forme du roman, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur la forme du roman. Bon, moi, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je suis l'héritier, en tout cas, je me veux l'héritier, sans égaler leur génie, mais je me veux l'héritier des grands anciens, des grands ancêtres qui nous ont légué, finalement, cette technique extraordinaire du roman classique, finalement, du 18e, 19e siècle. et 20e aussi, bien sûr. Et au fond, cette, donc je ne cherche pas du tout à transformer cette forme, mais au contraire à la mettre en contact avec la réalité d'aujourd'hui. Parce que je pense qu'elle garde sa puissance. Et que finalement, si vous d'Alexandre Dumas à Hemingway, à Graham Greene ou à John le Carré, il y a finalement la même utilisation, finalement, de cette puissance du roman qui permet au lecteur d'entrer dans une action par l'identification des personnages, voilà, et de la suivre. Mais voilà, c'est pas plus, si tu veux, de l'Uchronie que justement que les livres de Graham Greene, que d'une certaine façon, que pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Souvent les livres de Graham Greene, quand il raconte comment un agent secret se fait payer les plans d'une centrale nucléaire, mais qu'en fait c'est les plans de son aspirateur qu'il a vendu. Bon, ça s'est pas produit, enfin en tout cas pas forcément, ça n'a pas été su, mais c'est pas non plus l'Uchronie.
Ah, c'est oui, on n'est pas forcément loin de la réalité. On est peut-être même complètement dedans. Alors, tu parles de roman d'aventure. C'est aussi un roman de politique fiction. Il y a et comme dans d'autres de tes romans d'ailleurs aussi, il y a pas tout à fait de l'espionnage. Mais alors, on a deux personnages de hackers justement. Là, on est vraiment dans le monde contemporain. Moi, j'ai le sentiment quand même que là, contrairement à d'autres, enfin peut-être pas tant que ça, mais que tu as mêlé quand même plusieurs genres, plusieurs et un peu tout ce que tu aimes et que tu as un peu exploré. Alors, avec justement ces agences privées qui vont travailler un peu dans l'ombre. Et puis, effectivement, dans ta bibliographie, on retrouve quand même beaucoup de références comme ça, que ce soit Le Parfum d'Adam, Katiba, toute la série d'Aurel le Consul. Est-ce que, pour toi, est-ce que ce genre-là, enfin, aventure, politique, fiction, c'est un moteur romanesque puissant ?
Ben oui, alors, il faut peut-être mettre les choses un peu dans leur cadre. Bon, c'est l'histoire, au fond, d'un coup d'État, en fait. C'est l'histoire d'un coup d'État, ce qui est une... Le coup d'État, ça a toujours été un moteur littéraire puissant. Au fond, depuis Cicéron, la conjuration de Catilina, puis Machiavel, Malaparte, technique du coup d'État, etc., plus les livres de Conrad ou de Graham Greene, justement, sur ces thèmes-là. Donc c'est, mais sauf que c'est un coup d'État un peu particulier, puisqu'il ne se fait pas, j'allais dire, par l'intérieur du pays, mais il se fait par l'extérieur, c'est-à-dire c'est la tentative de prendre en main, de prendre le pouvoir dans un État par l'extérieur, voilà. Et par l'extérieur avec les moyens d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est amusant, c'est que, mais ça j'en suis profondément convaincu, et je crois qu'il suffit d'ouvrir un journal, c'est quelque chose qui se voit tous les jours, c'est-à-dire que les moyens aujourd'hui de désinformation, de manipulation de l'information, de création de fausses informations, les infox, comme disent les Québécois, on dit des fake news parce que on parle plus français, mais de deep fake, enfin, c'est-à-dire des informations qui sont techniquement parfaites, parce que finalement on est capable aujourd'hui de produire la vidéo, une fausse vidéo de quelqu'un qui soit totalement indiscernable, ou un faux enregistrement audio, etc., c'est pareil, des fausses photos, n'en parlons pas. Donc tous ces moyens finalement de désinformation sont des moyens qui, en s'exerçant de l'extérieur vers un État, vers une cible, on pourrait dire, peuvent la déstabiliser. C'est bien pour ça que, sur des échelles plus grandes, on voit à quel point les élections américaines sont perturbées par des fausses informations venues de Russie, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout ce jeu. Simplement, tout ce jeu de guerre d'information et tout ça, il est très diffus, c'est-à-dire qu'il est difficile à cadrer pour un récit. Et moi, j'avais besoin, en fait, de... Vous savez, c'est comme quand on veut faire du feu avec une parabole, et puis on concentre les rayons sur un seul endroit, ça finit par s'enflammer. Bon, il fallait concentrer tout ça sur un endroit. Et donc, j'ai choisi de raconter cette histoire en prenant un pays, un petit pays, qui existe, avec tout ce qui est raconté sur ce pays est vrai, les décors, les personnages, tout est vrai, et de faire en sorte que la concentration de ces actions extérieures, en effet, aboutisse à essayer, tout au moins, de faire tomber ce pays. Voilà, c'est un peu le pitch, comme on dit en bon français aussi.
Oui. Alors, ben justement, tous les ingrédients du roman d'aventure sont là, à commencer par ce pays lointain qu'on ne connaît pas très bien ou pas du tout. En tout cas, nous, communs des lecteurs. Alors, dans le roman, on a des éléments sur ce pays, sur sa politique, sur sa géographie, etc., au fur et à mesure. Tu insistes dans la postface sur l'aspect très documenté, qui se vérifie très, très, très simplement. Est-ce que ce travail de documentation a été long, difficile? Est-ce que tu, comme eux, tu as d'abord hésité avec d'autres pays avant de mettre ton dévolu sur celui-ci?
Oui, mais ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur Brunei, puisqu'il s'agit du sultanat de Brunei. Alors le sultanat de Brunei, c'est un tout petit pays qui est grand comme un département français, avec peu d'habitants, hein, il y a 300 000 habitants, très riche parce qu'il y a du pétrole et du gaz, en tout cas il y en avait, il y en a de moins en moins, et il se situe sur la rive nord de l'île de Bornéo, qui est une des îles... qui est au sud de la mer de Chine méridionale, qui est une île de grande comme deux fois la France, couverte de jungle, une jungle extrêmement dense et donc...
À 90%, non, je ne sais plus...
En tout cas, côté malais, il a coupe beaucoup pour mettre du palmier à huile à la place, mais enfin, il en reste parce que c'est grand. Et c'est là qu'on trouve les orang-outans, etc. Enfin, c'est, bah. Mais Brunei, c'est un tout petit pays. Et je trouvais intéressant... oui, j'ai réfléchi à où est-ce qu'on pouvait faire ça. J'aurais pu prendre la Belgique, hein, tout, pour moi, parce que des pays où les communautés s'affrontent, etc., un petit pays, bon, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de m'embrouiller avec les Belges. Et puis, c'est moins, pour tout dire, alors c'est la deuxième raison, c'est peut-être moins poétique que le sultanat de Brunei, qui est un lieu vraiment très poétique, parce que toute cette zone... Elle aussi est très littéraire, si vous voulez, c'est le théâtre des romans de Conrad, des romans de Somerset Maugham, etc. C'est tout ce monde malais, donc c'est une espèce de quadrilatère, c'est une mer, une sorte de Méditerranée asiatique, hein, avec la Chine au nord, avec la Malaisie Sumatra à l'ouest, les Philippines à l'est et en bas, Bornéo. Et dans ce quadrilatère, finalement, il y a de nombreux échanges depuis des siècles, hein, de peuples. Les colonisateurs européens sont aussi multiples, puisque c'était essentiellement une zone hollandaise, hein, de présence hollandaise, mais il y a aussi les Anglais, les Français au Vietnam, les Espagnols aux Philippines, etc. Donc c'est une zone qui concentre énormément de richesses, j'allais dire, culturelles. Et donc ce sultanat, finalement, c'est une sorte de concentré de tout ça, avec des peuples divers, bon, les Malais étant... la majorité, péniblement d'ailleurs, parce que c'est toute une partie du problème, c'est justement pour eux, pour garder la majorité numérique, des Chinois qui sont là en nombre important et qui tiennent tout ce qui est tout le commerce en gros, hein, mais qui sont maintenus dans une forme de minorité civique, puisqu'ils n'ont pas tous les droits, beaucoup sont apatrides, on ne veut pas leur donner la nationalité, des gens du sous-continent indien, Bangladi, etc. Et puis des peuples de la forêt. Donc il y a tout ça sur ce tout petit territoire. Il y a cette espèce de choc muet, finalement, hein, de ces communautés. Tout ça sous l'égide d'un sultan. Et c'est peut-être là où j'ai eu l'idée, d'ailleurs, la première fois. C'est quand j'ai rencontré à Dakar, quand j'étais ambassadeur à Dakar. Il y avait une conférence islamique et il était venu. Et donc j'ai croisé. Alors c'est tout bizarre parce qu'à l'époque c'était l'homme le plus riche du monde. Voyez, alors c'est l'homme le plus riche du monde. On se dira, j'ai pas mon RIB sur moi, mais c'est quand même assez fascinant. Il payait pas de mine, il était très très gentil. C'est pas du tout, ça n'avait pas l'air de l'avoir monté à la tête. Même si quand on va chez lui, dans le sultanat, on se rend compte qu'il a un palais qui fait 1700 pièces, avec des garages bourrés de milliers, de plusieurs milliers de Ferrari, de Maserati, de Rolls. Oui,
je ne sais pas si c'était vrai, parce que tu parles de 5000 voitures.
5000 voitures, oui. Oui, c'est d'autant plus. D'ailleurs, c'est toutes des voitures de course, enfin, en tout cas très rapides, voitures de sport. Et c'est d'ailleurs assez étonnant dans un pays où il y a 30 km de route, si vous voulez. Donc on a à peine le temps de passer la troisième, si vous voulez, vous êtes déjà à la frontière, quoi. Mais bon, après tout, si ça l'amuse. Et puis là, ça Rolls sa en or, c'est chic aussi, etc. Bon, voilà. Mais c'est, alors ça, c'est bon, je dirais, c'est pour la petite histoire, mais ça rend assez bien compte de ce qu'est ce pays, c'est-à-dire un mélange de jungle, d'où le titre, parce que 80% du territoire c'est de la jungle. Et la capitale est noyée dans cette jungle, mais elle est couverte d'or, parce que les coupoles de toutes les mosquées, les coupoles du palais, alors le palais, lui, il ruisselle d'or à l'intérieur, les murs sont couverts d'or, etc. Et donc il y a cette espèce de contraste entre une extrême richesse et une vie très très proche de la nature, où dans la plupart des maisons, on trouve la jungle tout proche. Donc quand on est arrivé, je suis allé avec ma compagne voir, on a été voir un peu, alors on a pris un hôtel au centre-ville. Alors on arrive de nuit, on nous emmène, on arrive, bon. Et puis le lendemain matin, on ouvre les volets, enfin on ouvre les rideaux, et qu'est-ce qu'on voit? La jungle. Alors on dit, vous foutez de nous, on a pris un hôtel au centre-ville, et ben vous y êtes. Comment ça, on y est, mais il y a les singes, etc. C'est bon. Ben oui, mais c'est le centre-ville quand même. C'est-à-dire que le centre-ville et la jungle sont interpénétrés. Ce qui rend les choses. C'est pas du tout, si vous voulez, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec Dubaï ou avec. C'est pas du tout des grandes tours, machin. Non, pas du tout. C'est une ville à hauteur d'homme, en fait. Mais vraiment couverte d'or et où il y a ce contraste. Voilà.
Alors ça nous donne le décor, et parmi les ingrédients de ce roman d'aventure, évidemment, on a de grands personnages assez différents les uns des autres, mais quand même avec quelques grandes figures un peu archétypales, avec tout d'abord Flora qui est un peu l'héroïne quand même du roman, qui est quand même très présente, et qui elle est plutôt idéaliste. C'est un type de personnage qu'on retrouve assez souvent dans tes romans.
Ben oui, parce que quand on raconte des histoires comme ça, où on est obligé quand même de suivre des personnages, d'autres personnages peu recommandables ou cyniques, ou qui sont mus par des motivations d'ordre financier ou le pouvoir, etc. Il faut pouvoir se distancier un peu de tout ça. Il faut avoir des personnages qui, au contraire, permettent de reprendre une respiration un peu morale, si je puis dire, et qui puissent permettre de regarder ces événements en s'en détachant. Et c'est le cas de Flora, c'est-à-dire qu'à la fois. Flora, c'est une fille que j'ai imaginée à partir de deux de nos amis. L'une est une ancienne championne de plongée, c'est une fille très jeune d'ailleurs, mais.
Qualité que Flora a.
Voilà, qui est une ancienne championne d'apnée, qui est probablement mieux dans l'eau que dehors. C'est-à-dire que le monde physique, le monde aérien, finalement, est plein de chocs. Finalement, dans l'eau, c'est plus. Tout est plus doux, hein. Mais enfin, il faut bien qu'elle en sorte de l'eau, quoi. Donc, elle est, voilà, elle a une vie, une vie comme ça active, mais finalement très ancrée quand même sur cette passion pour l'eau. Et l'autre, c'est une amie qui a la particularité d'être la fille d'un célèbre mercenaire français qui s'appelait Bob Denard, que vous avez tous connu. Voilà. Et Bob Denard a semé des enfants un peu partout, et c'est l'une d'entre eux. Et évidemment, elle a toujours eu il y a toujours derrière elle, finalement, le souvenir, l'image de ce père. Alors pour Flora, j'ai imaginé que c'est son grand-père, mais peu importe, c'est-à-dire que. elle est fascinée par l'action parce qu'il y a cette image du grand-père et que, mais c'est une image qui la renvoie plus à une forme de romantisme, une forme de d'idéalisme, une forme de le grand-père, c'est une, conformément à Bob Denard, une espèce de chevalier égaré dans le XXe siècle, si vous voulez, mais avec des espèces de valeurs un peu médiévales, un peu voilà. Et au fond, elle, à la différence de tous les gens qu'elle va rencontrer, qui sont eux soit des hommes d'affaires, soit des hommes d'action, etc., elle va entrer dans cette action avec toujours cet idéal et donc c'est un mélange des deux.
Oui, d'ailleurs, tu dis, elle écoute son compagnon de voyage dans le sultanat qui s'appelle Joe, qui lui est d'origine gitane, qui est un personnage très drôle, moi je trouve, et elle l'écoute jouer de la guitare, et tu dis, dans ce qu'elle ressent au moment où elle écoute Joe jouer de la guitare, un mélange de mélancolie, de joie de vivre et de sensualité. Effectivement, ça me paraît assez bien définir Flora. Alors il y a un autre personnage qui est Ronald et qui est un petit peu le maître d'œuvre et qui d'ailleurs pourrait tout à fait être ton double parce que c'est lui qui choisit le pays, c'est lui qui fait le casting. Voilà, donc ça c'est Jean-Christophe Ruffin à l'œuvre.
Non, parce que moi je sors pas de prison hein, quand même. Mais je vais peut-être m'y retrouver parce qu'avec l'histoire du sultanat, je sais pas comment ça va finir. Mais enfin, non, Ronald, il a. Alors, c'est la version de l'aventurier, si on veut, mais beaucoup plus dans le business. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye d'investir de nouveaux créneaux, on pourrait dire. Hein. Et parmi ces créneaux, pour les agences de sécurité aujourd'hui, les agences de sécurité privées, il y en a beaucoup. On en a beaucoup entendu parler au moment de l'Ukraine avec Wagner. Hein. C'est un exemple, même si Wagner est très particulier, puisque c'est un satellite du pouvoir russe. Mais enfin, on a vu que ça n'était pas tant que ça non plus. Hein. Mais il y a ces agences de sécurité, on en trouve un peu partout dans le monde. Et elles ont des spécialisations. C'est-à-dire qu'il y en a qui sécurisent des zones industrielles. Il y en a d'autres qui peuvent protéger telle ou telle force politique. Il y en a qui... Bref. Mais parmi ces possibilités, il y en a une qui, moi, m'avait beaucoup fasciné. Ça, c'est aussi au Sénégal que j'avais été en contact avec cette idée. C'est-à-dire... Au fond, une espèce d'ingénierie du pouvoir. Le président sénégalais m'avait raconté ça un jour. On se voyait tout le temps, il me racontait un peu. Alors, il me dit, quand j'étais dans l'opposition, me raconte-t-il, il y a une entreprise qui est venue me voir en me disant, écoutez, bon, les élections, vous avez du mal, hein, parce que plusieurs fois que vous les perdez, etc. Nous, si vous voulez, on s'occupe de tout, hein. On vous met au pouvoir, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, on a ce qu'il faut, s'occupe de tout, on vous met au pouvoir, vous n'avez rien à payer, enfin pas tout de suite, hein, bien sûr, parce que et on vous présentera la facture après. Alors il avait dit, bah, évidemment j'ai refusé, etc. Bon, et en effet, il a été par la suite élu. Mais quand on regarde dans une histoire récente, ces coups d'État clé en main, puisqu'ils appelaient ça comme ça, présenter ça comme un service, finalement, ou faire un coup d'État clé en main. Bon. Eh bien, ce sont déjà produits. C'est-à-dire qu'il y a des exemples, en tout cas de tentatives. Il y en a une en Guinée équatoriale en 2004. C'est un pays, un petit pays aussi de pétrolier d'Afrique. Et il y a eu une tentative d'un coup d'État clé en main, comme ça, qui avait été téléguidé. En tout cas, c'est ce dont il a été accusé, par le fils de Margaret Thatcher. Le fils de Margaret Thatcher, qui est un homme d'affaires un peu bidon, etc., avait monté, financé un coup d'État dans ce pays pour s'emparer des richesses évidemment considérables de ce petit pays pétrolier. Bon, il se trouve que ça s'est mal passé, les types qui devaient intervenir se sont fait arrêter, etc. Bon, la tentative a été avortée, mais ça existe. Et je me suis dit, ben voilà, on va faire ça, un coup d'État clé en main. Et ce qui fait que quand on est allé au Brunei, pour visiter le pays, on y était dans la perspective d'y faire un coup d'État, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire qu'on regardait, on se disait, on va mettre les explosifs là, etc. Enfin, c'était un tourisme un peu intéressé, mais intéressant aussi. Hein. C'est-à-dire que C'est très amusant quand vous êtes dans un pays et que vous vous dites comment je ferais si je voulais faire sauter ce truc. Et parce que ça peut être petit. Et un pays, c'est compliqué. C'est un pays, c'est un tissu serré de même si le pouvoir n'est pas très visible, il est là. Il y a toutes les relations sociales, etc. Comment on s'y prend? C'est voilà. Et ben, c'est ça qu'on a fait. Quoi. Voilà. Et du coup, le livre est le récit d'un coup d'État. Voilà, donc c'est nos vacances en fait. Hein,
oui. Qu'on raconte. C'était peut-être un peu dangereux de prendre des notes. Là. Alors, parmi les autres personnages, il y a des militaires qui rejoignent cette agence pour mener à bien cette opération. Il y a parmi les personnages que moi je trouve très comiques, il y a le professeur Delachaux qui est le spécialiste du coup d'État clé en main, qui a une théorie, on va y venir. Et puis un autre personnage, Marvin Glovic, qui est le grand patron et le créateur d'un moteur de recherche que tu as appelé Golou, alors qu'on pourrait presque qui s'appelle d'une certaine manière, mais qu'on pourrait prononcer Google peut-être. C'est un personnage qu'on voit un petit peu au début et qui finalement est très peu présent dans le roman, mais qui est finalement omniprésent, quoi. C'est ce pouvoir-là des GAFAM, puisqu'il s'agit de ça. Et à un moment, tu parles d'eux, alors c'est un peu plus loin dans le livre, mais comme des gamins, des adolescents libertariens, et des, oui, c'est ça, des adolescents, peut-être un peu capricieux, mais qui ont des très très gros moyens, quoi.
Oui, alors. Pour raconter cette histoire, si vous voulez, mais c'est très difficile de parler de ce livre. C'est pénible, ça doit être compliqué pour vous d'écouter ça. Ça part dans tous les sens. Enfin, le mieux, c'est de le lire, hein, finalement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de... c'est le télescopage de deux choses. D'une part, cette idée d'un coup d'État dans un pays, un petit pays, avec les nouveaux moyens que donne aujourd'hui la guerre informationnelle. Ça, c'est la première chose. Mais qui... Puisque je voulais raconter cette histoire, qui le fait ce coup d'État? Pour qui? Alors, j'aurais pu choisir de le faire pour un État, par exemple, pour les Chinois, par exemple. C'est pas tout à fait absurde, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays de cette région du monde qui sont vraiment infiltrés par les Chinois, qui sont en train de préparer leur assaut sur Taïwan et qui s'assurent le plus de soutien possible dans la région. Donc ça aurait pu être les Chinois, mais ça ne m'intéressait pas comme ça. Je trouvais que c'était moins intéressant que de dire que de trouver finalement de relier ça à une autre réalité qui est que aujourd'hui, alors c'est tout à fait autre chose, mais les deux choses se rejoignent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez dans quel état se trouvent ces grandes entreprises du numérique, dans Google, etc., on se rend compte qu'ils atteignent un degré de puissance tel qu'ils touchent des sujets extrêmement sensibles et qui vont les mettre, et qui commencent à les mettre, en tension avec les États, je veux dire, où ils se trouvent, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis. Parce que, tout simplement, quand vous faites une application pour reconnaître les plantes ou pour... Tout le monde s'en fout, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Quand vous vous attaquez au transhumanisme, quand vous attaquez, quand vous essayez, comme Neuralink vient de le faire, d'implanter des capteurs dans le cerveau pour mettre l'être humain directement en lien avec les machines, etc., là, ça devient déjà autre chose. Quand vous vous fixez comme objectif d'allonger indéfiniment la vie humaine et d'atteindre l'immortalité, etc., bon, nous, on a trouvé le moyen en 1634 avec l'Académie française, bien sûr, mais eux, ils s'y prennent autrement et ils arrivent à aider... À des choses qui sont très sensibles. Or, en ce moment, enfin, de ces dernières années, on a vu qu'un certain nombre de découvertes dans d'autres domaines, par exemple le clonage humain, pouvait être interdit. Le clonage humain, c'est une possibilité. Pourtant, elle a été interdite aux États-Unis. C'est-à-dire que c'était la première fois, une des premières fois, hein, où il y avait une sorte d'antagonisme entre ce qu'on peut faire et ce qu'on est autorisé à faire. Eh bien, je crois que dans bien des domaines, c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Et c'est pas tout à fait nouveau, parce que moi, je me souvenais, j'étais étudiant à ce moment-là, mais je me souvenais de la première greffe du cœur. La première greffe du cœur a été mise au point par une équipe américaine. C'était le professeur Shumway. Tout était prêt. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas faire la première application humaine parce que il y avait des limites juridiques. Si le patient mourait, il pouvait être accusé d'être des assassins, enfin, de se retrouver en prison. Et il y avait dans l'équipe un jeune stagiaire sud-africain, Christian Barnard, qui a appris la technique, qui est rentré en Afrique du Sud où il n'y avait pas du tout ces problèmes juridiques et qui a fait la première greffe du cœur. Mais il n'avait aucune autre raison de le faire que simplement de se trouver dans un environnement favorable. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que, en effet, ces grandes boîtes du numérique en ce moment cherchent à se libérer de cette empreinte, de cette emprise, pardon, et de ces limites juridiques américaines. Il y a eu des propositions qui ont été faites un peu farfelues, mais qui ont été faites sérieusement.
D'indépendance de la Californie. Voilà,
d'indépendance de la Californie, etc., pour finalement s'autonomiser par rapport à ces contraintes. Il ne s'agit pas de fiscalité, parce que la fiscalité, ça, ils se débrouillent, ils font des trucs. Non, mais c'est vraiment pour avoir un univers qui soit. Et finalement, comme ce sont des libertariens, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'il ne doit y avoir aucune limite à la créativité humaine et que tout ce qui est possible doit être autorisé, finalement, c'est ça leur credo, si vous voulez, on peut penser qu'ils arrivent à un point où ils sont en conflit avec l'État. Et donc, quand on veut se libérer de l'État, ben, finalement, le meilleur moyen, c'est peut-être d'en posséder un, tout simplement. C'est-à-dire, au fond, de pouvoir créer sa norme en ayant un espace qu'on contrôle. Et c'est là où les deux choses se télescopent, c'est-à-dire qu'à partir de cette idée, c'est eux qui vont recourir à ce coup d'État clé en main. Voilà.
Oui, et c'est ce qui fait.
Là, on raconte absolument tout, c'est terrible. Hein,
Finalement, on ne raconte pas tellement tant de choses que ça, et puis surtout, ce qui. Alors, on va y venir. Il y a la mécanique du coup d'État, et donc là, effectivement, ça, c'est toute l'intrigue qui se déroule pratiquement du début jusqu'à vraiment la dernière page. Et puis l'association de tous ces personnages qui joue aussi une sorte de jeu de dupe. On voit bien. Alors, il y a effectivement les idéalistes. Ils sont pas très nombreux, et notamment Flora. Mais en prise avec tous les autres personnages, et c'est ça qui est absolument fascinant, puis de voir comment ils évoluent au cours du récit. Alors cette mécanique du coup d'État, elle nous est présentée par le professeur Delachaux, qui est un de tes personnages, qui est je certainement inspiré de quelqu'un. En tout cas, tu dis que il y a beaucoup de théoriciens sur effectivement le coup d'État. Là, on est sur une théorie un peu particulière qui est celle de l'ébranlement. Elle consiste en quoi?
Alors d'abord, de la chose, c'est effectivement, je l'ai vraiment directement, j'ai directement inspiré d'un de mes amis aussi, qui j'ai fait lire le livre, et qui est d'accord, mais qui est un personnage, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on écrit sur lui, parce que Denis Tillinac lui avait consacré un roman sur sa vie, qui est tel que je la raconte, c'est-à-dire un ancien activiste gauchiste ayant un peu tourné vers Action Directe, machin, ayant dû quitter la France parce qu'il avait un peu chaud aux fesses, s'est retrouvé au Canada. Là, on l'a envoyé enseigner comme coopérant en Afrique. Et là, il s'est intéressé donc à la politique africaine et notamment justement à ces questions de coup d'État. Et il se trouve que donc ce personnage, il y a une caractéristique qui permet de le reconnaître. C'est aujourd'hui, il est chauve et il assume sa calvitie. Mais quand je l'ai connu, il était déjà chauve, mais il mettait une moumoute. Et alors, il y avait des moumoutes Il y en avait plusieurs selon les circonstances, si vous voulez. Il y en avait une de cérémonie, on peut dire. Hein.
D'apparat.
D'apparat, qui sentait un peu la naphtaline, qui était bien gonflée et tout. Et puis quand on a fait plusieurs fois des missions de terrain, etc., parce qu'on a voyagé pas mal ensemble, on a fait, là, il mettait un truc, il a dû acheter chez Saint-Maclou, ou je sais pas, enfin, qui ressemblait plus à une moquette. Bref, mais... Et donc c'est ce personnage qui est en même temps donc farfelu, que vous voyez, mais très pertinent, c'est-à-dire que comme le vrai de dont je me suis inspiré, qui est lu dans les universités américaines, etc., parce que il a élaboré en effet cette théorie. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le coup d'État, le livre qui fait date aujourd'hui, c'est le livre d'Edgar Ludwig, qui est paru en 1968, qui a été réactualisé après, qui s'appelle Coup d'État mode d'emploi, et c'est vraiment un que sais-je du, c'est même pas, c'est le coup d'État pour les nuls, si vous voulez. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il est probable qu'il a été lu pas mal par des nuls, parce qu'on a retrouvé dans les valises d'un certain nombre de gens qui avaient essayé de faire des coups d'État, qui se sont retrouvés en tôle. On a retrouvé ça dans leurs valises. Donc, méfiance quand même. Mais c'est un livre assez drôle, parce que il est extrêmement sérieux, mais vous avez des schémas, par exemple, qui vous disent voilà où disposer les tanks autour du palais présidentiel, comment rédiger le communiqué quand vous aurez pris le pouvoir. Enfin, c'est absolument.
Tu le cites d'ailleurs, sa définition du coup d'État, c'est infiltration d'un segment limité mais critique de l'appareil d'État pour priver le gouvernement de tout contrôle sur le reste.
C'est la définition du coup d'État. C'est pas une révolution, un coup d'État. Une révolution, c'est quand un peuple veut changer un système politique. Donc, il veut s'emparer du pouvoir pour changer la nature du pouvoir. Le coup d'État, c'est quand il y a un petit segment, en effet, par exemple, quelques régiments de l'armée ou quelques éléments de la police, etc., qui se regroupent pour prendre le pouvoir, mais pas du tout pour changer le système, simplement pour être calife à la place du calife, c'est tout. Mais sans rien changer à la structure du système. C'est ça, un coup d'État, hein, au sens strict. Et alors, lui, son idée, qui est devenue un peu la mienne, c'est que, finalement, dans le coup d'État classique, celui qui se produit parfois encore en Afrique récemment, au Gabon, etc., il y a eu des coups d'État classiques, c'est-à-dire des coups d'État où militaires, voilà, avec un général, avec des galons, machin, et on prend un assaut, le palais présidentiel, on met le président en taule, voilà. Ou même on le zigouille, c'est tout à fait... moi, je me souviens, quand j'étais à Dakar, j'avais dans le pays voisin, en Guinée-Bissau, j'avais un collègue, donc qui était l'ambassadeur en Guinée-Bissau, qui était un écrivain aussi. C'était Jean-François Parot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Le Floc, Nicolas Le Floc, les enquêtes, voilà. Et alors, il était dans ce pays qui est un tout petit pays où il y a alors lui qui est infiltré par les mafias colombiennes, c'est une sorte de narco-État, et il faisait des télégrammes extraordinaires. Enfin, moi, je me souviens, je me régalais en lisant ça. Et je me souviens d'une fois, le télégramme, c'était hier, le chef d'état-major de l'armée s'est dirigé vers la villa, parce que c'est un village en fait, hein, vers la villa présidentielle, a tiré dans les vitres. Malheureusement, ne sont pas parvenus à renverser le président, qui s'est claquemuré à l'intérieur. Ils sont entrés finalement et recourant à des moyens plus simples et plus expéditifs, ils l'ont achevé à la machette devant sa femme. Bon, télégramme, vous voyez, vous lisez ça, vous dites bon, voilà. Donc ça reste, je dirais, le degré zéro du coup d'État. C'est-à-dire que c'est vraiment...
classique.
C'est classique. C'est classique et de bon goût. Ça, c'est, voilà. Mais disons que la violence est exercée par l'extérieur. C'est-à-dire que la violence est là. Et c'est elle le moteur. Bon. Dans l'idée de l'ébranlement, c'est la violence n'est pas, ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la société elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit, au fond, de dresser les communautés les unes contre les autres. dresser les Chinois contre les Malais, les éléments les plus radicaux contre les modérés, les peuples de la forêt contre les Malais, etc. C'est-à-dire, au fond, vous avez une société qui est relativement calme en apparence, mais au fond, avec des fake news, en faisant en sorte qu'on accuse le voisin, le machin, etc., on fait vibrer tout ça, et la violence, en fait, c'est une sorte d'ébranlement comme une réaction en chaîne qui finit par mettre le pays complètement, par rendre le pays complètement vulnérable. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est faire démarrer le processus qui après se développe tout seul.
Voilà, c'est une sorte de réaction en chaîne. Alors, et j'ai l'impression que tout ça, raconté comme ça, ça va vous désespérer parce que, en fait, si je me décarcasse à faire des romans, c'est justement pour éviter d'avoir expliqué tout ça, parce qu'au fond, ce qui peut paraître complexe devient, à mon sens, très simple quand on l'incarne, c'est-à-dire quand on le vit au quotidien, quand on voit ça au quotidien. Et finalement, de même qu'on prend des exemples pour essayer de se faire comprendre, la meilleure chose, c'est finalement de partir de l'exemple, c'est à partir du fait lui-même tel qu'on le décrit comme ça, sans parler trop de la théorie. Voilà. Mais bon.
Là, oui, je décortique un peu, mais c'est que je veux pas trop raconter l'histoire non plus, puisque effectivement, c'est le déroulement de cette stratégie qui part de cette théorie de l'ébranlement qui va être mise en œuvre. Et effectivement, la mise en œuvre, elle paraît extrêmement simple et tout à fait quotidienne. Alors, à un moment, il résume en disant, on a balancé deux fake news et on a fait une coupure de courant et ça suffit à justement à ce que cette grande théorie de l'ébranlement prenne tout son développement, quoi.
Oui, mais en fait, ça c'est un concentré des choses.
Là, tu vois, je simplifie beaucoup maintenant.
Oui, non, mais en fait, quand on agit sur un petit état, une scène très restreinte, il ne suffit de pas grand-chose pour faire exploser les... Je prends un exemple. Je vous ai dit, ce petit sultanat, c'est un pays riche parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Bon. En effet, toute la vie du pays repose sur cette richesse, sur cette rente pétrolière qui permet de payer tout le monde à ne rien faire, en gros, sauf les Chinois qui bossent. Mais disons que les emplois publics sont tous très bien rémunérés, mais...
Presque fictifs.
Presque fictifs, pléthoriques. En gros, tout le monde est fonctionnaire, personne ne fait grand-chose. Il y a une espèce de... Voilà, on vit de la rente pétrolière. Et ça tient comme ça. C'est-à-dire que même s'il y a des tensions, etc., tout le monde profite un peu du système. Bon, donc on n'a pas trop intérêt à ce que ça change. Si vous expliquez aux gens qu'il n'y a plus de pétrole, ce qui est presque vrai, parce qu'ils ont en gros 3 ans de réserve, hein, et que le gaz, c'est pas comme ils le disent 25 ans, mais plutôt 6. Parce que les gisements qu'ils mettent toujours sur leur graphique en expliquant qu'il y a des nouveaux gisements, etc., ils sont en haute mer. Ils sont extrêmement chers à exploiter et ils sont assez peu productifs. C'est-à-dire que chaque fois que des recherches, des sondages ont été faits, on se rend compte qu'on ne peut pas tirer grand-chose de ces gisements. Donc en gros, si vous leur dites... le sultan, il le sait, mais le peuple ne le sait pas. Donc si vous... instiller dans leur idée, dans leur conscience, que c'est fini, c'est-à-dire que tout ça c'est terminé, et qu'en gros il n'y a pas de relève parce qu'il n'y a pas eu de plan B, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissement, contrairement à ce qu'a fait Dubaï ou d'autres pays qui ont préparé l'après-pétrole, eux ils ne l'ont pas fait, donc tout le système va s'effondrer. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, une information comme ça, si elle pénètre au bon niveau, qu'elle est bien relayée dans la société, peut introduire immédiatement une grande défiance par rapport au pouvoir, une sorte de ça change tout, si vous voulez. Voilà. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans le livre. Mais ça pour dire qu'il n'y a pas de côté magique, c'est pas parce que vous allez dire que... c'est pas le côté magique, c'est vraiment...
C'est révéler quelque chose qui existe, mais voilà, dont on n'a pas connaissance.
Bon ouais, c'est appuyer ça. Sur le bon bouton. Et c'est très important. Parce que dans un pays comme celui-là, par exemple, tout s'explique, si vous voulez, par une énorme dissymétrie entre la vie du sultan et de sa cour et le peuple. Le sultan et sa cour, dans son palais, fait ce qu'il veut. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas pieux, ce que vous voudrez, mais enfin, quand même, il y a eu des scandales épouvantables dans les années, au début des années 2000, parce qu'il faisait venir des charters entiers de filles qui étaient toutes recrutées sur des critères, certes intellectuels, mais enfin aussi pas mal physiques, pour faire partie du harem, machin, etc. Bon, et un certain nombre de ces filles, des Américaines en particulier, ont écrit des livres pour raconter ça. Et ça fait désordre. Hein. Bon, il y a des turpitudes à l'intérieur de ce palais qui sont certaines. Ne serait-ce que les Ferrari, les machins, etc. Bon. Mais de l'autre côté de l'enceinte, si vous voulez, il y a le peuple. Et alors, plus le sultan est mis en cause pour ses excès, en quelque sorte, surtout sa famille d'ailleurs, notamment le frère, qui est quand même parti avec 40 milliards de dollars, enfin, c'est, voilà, bref. Plus ils sont mis en cause, plus ils serrent la vis au peuple en disant charia intégrale, etc., pour montrer que... Vous voyez,
de donner des gages de bonne conduite aussi gages, vis-à-vis de l'extérieur.
Voilà. Quoi. Et c'est une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire que donc vous avez une sorte de dichotomie extrême entre ce pouvoir et puis le peuple sur lequel il règne. Et tout est un peu comme ça, en faux semblant. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir. Moi, je m'en suis fait une règle. Je raconte jamais quelque chose sur un pays sans y être allé. Même pour les Aurel, par exemple, j'y vais, etc. Bon, partout. Et là, c'est pareil. Brunet, quand vous... Bon, beaucoup de gens ne s'y intéressent pas, j'imagine beaucoup d'entre vous, mais si la curiosité vous prend de regarder un guide ou quelque chose, vous allez voir... Charia intégrale, par exemple. Ah oui, pays charia intégrale. Alors, nous, quand on est arrivé, on s'est dit, charia intégrale, ça ne doit pas rigoler, quand même. D'ailleurs, il y a eu des manifestations en Europe et aux États-Unis quand ils ont déclaré cette charia intégrale, parce que une condamnation à mort des homosexuels, etc. Il y a eu des... alors, on se dit, bon, on va voir ce qui se passe, mais... alors, ma compagne... on ne savait pas s'il fallait qu'elle se voile ou pas. Alors on est arrivé, puis c'était pas clair. C'est pas clair. Dans la rue, il y a des femmes voilées, d'autres pas. C'est pas clair. Alors on a demandé. Alors on nous a dit, bon, les blondes, vaut mieux les voiler. Hein. Par contre, les brunes, c'est pas la peine, parce qu'il y a énormément de Chinois, et les Chinois sont bouddhistes, ils sont pas musulmans, on peut pas leur demander de se soumettre à une vêture musulmane. Donc ils font ce qu'elles veulent. Ma compagne est rousse. Alors, problème quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'était pas prévu au programme. Donc, si vous voulez, bon, finalement, elle est tombée, si j'ose dire, du côté des brunes, et finalement, on lui a jamais rien demandé. Voilà. Donc, finalement, bon, charia intégrale, mais c'est pas du tout, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Iran, vous voyez ? On vous dit pas d'alcool. Bon, bien sûr, alcool. Mais la première chose que vous voyez quand vous descendez d'avion, c'est une queue à la douane avec des gens avec des petits sacs en plastique, avec des bouteilles de whisky. Parce qu'en fait, vous avez le droit à un certain... Si vous n'êtes pas musulman, vous avez le droit à un certain nombre de litres, etc. Bon. On a un ambassadeur de France là-bas. Il y a un ambassadeur de France à Brunei, figurez-vous. Et je ne sais même pas si lui-même est au courant, d'ailleurs, parce que c'est... Que, enfin, si, il est pas surchargé. Hein, il n'est pas surchargé, mais c'est pas non plus très marrant parce que il n'a pas le droit, pas d'alcool. Hein. Et alors, on l'a aidé parce que pendant qu'on était là-bas, on est allé en Malaisie, puisque faut faire 20 km, c'est pas loin. Hein. Et dès que vous passez côté Malaisie, là, vous avez des boutiques hyper achalandées. Vous trouvez tous les pinards que vous voulez du monde entier. Et donc, vous remplissez votre coffre, et là, plaque diplomatique, drapeau français, on passe, voilà. et vous revenez avec votre coffre plein de pinards. Bon, et tout est comme ça, c'est-à-dire que et personne ne va vous condamner à mort ni rien du tout. Donc si vous voulez, il y a des faux semblants et on voit bien que tout ça tient pas forcément très solidement. Hein. On était là-bas pendant le Ramadan. À l'heure du déjeuner, on se disait, bon, ben, rien pouvoir bouffer, machin. On dit, si, vous allez à tel endroit, mais vous montez au premier étage, et là, vous allez trouver. Et là, on se trouve dans un immense restaurant chinois, bourré, où on bouffe de tout, etc., en plein Ramadan, en plein déjeuner, si vous voulez. Voilà. Et pourtant, il y a la charia intégrale, donc on se pince. Et là, vous commandez un plat de porc, enfin, c'est absolument hallucinant. Et vous, bon. Mais vu de l'extérieur, c'est la charia intégrale. Donc, on voit bien que tout ça ne tient pas solidement et que, en influençant par l'extérieur, on doit pouvoir faire exploser toutes ces contradictions.
Oui, ce que tu révèles, c'est justement cette fragilité-là, alors de ce pays, mais peut-être quand même du monde aussi dans son ensemble. Effectivement, cet ébranlement va vraiment avoir lieu. La situation va vraiment dégénérer. Mais ça, je voulais pas trop le raconter. Et notamment, ce qui arrive très bien, c'est ce racisme vis-à-vis des Chinois, qui deviennent très vite les boucs émissaires de tout ce qui se passe dans le pays, alors que évidemment, ils n'y sont pour rien. Mais il y a une espèce de, effectivement, il y a cette fragilité, et de la même manière avec les GAFAM, avec leur pouvoir qui est réel. Certains sont plus riches que certains pays, certaines sociétés sont plus riches que certains pays, ce que tu racontes aussi. Cette fragilité-là, c'est pas uniquement celle de ce pays-là, c'est effectivement la fragilité de tout notre monde qui peut, semble-t-il, en tout cas c'est en tout cas ce qui apparaît dans le livre de manière assez frappante, basculer d'un moment à l'autre, quoi.
Bah, c'est-à-dire que sur les 200 et quelques États qui existent dans le monde, si vous voulez, il y en a quand même une très grande majorité qui sont petits, faibles, pauvres. Et quand vous comparez finalement leurs moyens, en fait, au budget de certaines grandes entreprises, notamment du numérique, c'est de l'ordre de 1 à 300, 1 à 500. C'est-à-dire que ces États ne pèsent rien du tout. Hein. Google, je crois que c'est 300 milliards de chiffre d'affaires par an, de dollars. Si vous voulez, vous avez plusieurs de grand nombre de ces États dont le budget global annuel est de 1 milliard par an, si vous voulez. Enfin, c'est, voilà. Donc, il y a cette vulnérabilité qui est très grande. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu d'interférence, mais dans l'histoire, le pouvoir politique, très souvent, est convoité par les gens qui ont le pouvoir économique. C'est l'histoire de la Révolution française, évidemment, mais c'est-à-dire que... Parce que le pouvoir politique est d'une nature différente de celle du pouvoir économique. Ces petits pays qui pèsent rien, qui sont fragiles, ce que vous voudrez, aux Nations Unies, ils ont une voix. La Barbade a une voix, les États-Unis une voix. C'est-à-dire que, je veux dire, bon, même si les grands pays ont d'autres moyens d'imposer leur domination, mais quand même, la question de souveraineté est très critique. C'est-à-dire, ces pays peuvent édicter leurs lois, peuvent décider de créer leurs normes à un endroit, d'autoriser certaines choses, d'en interdire d'autres, etc. Et ça peut devenir très précieux et même très désirable pour des entreprises très, très importantes. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur ces ados, là, les patrons de ces grandes entreprises du numérique sont des personnages dans la réalité, hein, qui sont très différents du capitalisme traditionnel, le capitalisme, j'allais dire, industriel classique, les Rockefeller, les machins, c'était...
Qui ont bâti leur fortune petit à petit.
Voilà. Et avec une sorte de maturation et de maturité. Donc, alors que là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Google, quand vous allez à Los Angeles, vous pouvez visiter le garage où les deux gamins, donc Larry Page et son collègue, j'ai oublié son nom, ont bricolé leurs ordinateurs et créé les algorithmes de Google. C'est c'est devenu un monument historique aux États-Unis, ça se visite. Et on imagine très bien les deux gamins avec des boutons sur la gueule, les parents qui leur disent « venez bouffer, prenez votre douche », etc., qui bricolent leur truc, qui découvrent ça et qui quasiment instantanément deviennent multimilliardaires. C'est-à-dire c'est une bulle, ça leur a pété à la figure. Donc ils se sont retrouvés au sommet de ces bon, c'est eux aujourd'hui les hommes les plus riches du monde, ils sont là, hein, c'est Jeff Bezos et autres. Alors Bezos et Musk, et encore des gens qui se sont confrontés à des questions d'organisation, etc. Ils sont plus quand même du côté d'économie réelle. Mais les gens du pur virtuel, bon, Facebook et autres, c'est pas du tout ça. Ce sont des espèces de gamins sur une bulle extraordinaire. Et donc, ils gardent cette espèce de fraîcheur ou d'inconscience des enfants, enfin des adolescents, et ils se passionnent pour des idées simples. C'est pour ça que leur truc, c'est faire qu'on puisse vivre éternellement, ce que je disais tout à l'heure. Quand Musk veut aller sur Mars, c'est pas pour explorer Mars comme le faisait la NASA avant. C'est avec une idée beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus folle, enfin, qui est en fait de transporter l'humanité ou une partie de l'humanité sur Mars, avec cette idée derrière que la Terre étant foutue, en gros. Il faut pouvoir faire une greffe dans un autre monde, un peu comme les pères fondateurs des États-Unis ont quitté l'Europe avec leur bateau, le Mayflower, pour aller créer un autre monde sur une table rase. Bon. Ils adorent ça. Et donc, y a ce côté ado pour des idées simples, etc. Si vous allez leur proposer un truc en disant on va agrandir la librairie des volcans par là, machin, etc., mais ils en ont rien à foutre, c'est trop petit. Et pourtant, ce serait parfait. Mais c'est pas ça qui va les exciter. Ce qui va les exciter, c'est les grandes idées. Et la différence avec un ado classique, c'est qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens de mettre plusieurs milliards pour monter un programme sur ces sujets et peut-être y arriver. Voilà. Et ça, c'est toute la différence.
Alors, je ne sais pas si effectivement il s'agit d'une histoire heureuse. Je ne sais pas non plus si elle est tout à fait malheureuse. Mais j'ai envie de terminer avec ces mots que tu cites. Ça doit être le professeur de Lachaud qui dit que nous sommes dans une zone critique. Il dit « Je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, mais la situation va dégénérer. » C'est déjà la promesse d'un beau roman.
Oui, mais en fait, moi, mes livres, même s'ils traitent de sujets sérieux, etc., sont, comme je le disais au début, toujours des romans, et toujours, si je me suis tourné vers cette forme littéraire, c'était pour y trouver une forme d'enthousiasme, de bonheur, d'optimisme, de couleur, etc. Moi, je n'écris pas des romans noirs, je n'écris pas des romans désespérés. Donc, par-delà tout ce qui a pu être évoqué, bon, c'est difficile de parler de ce livre donc sans évoquer tout ça, mais par-delà toutes ces questions techniques, je dirais, il y a d'abord un récit, il y a d'abord une aventure, il y a des passions, des émotions, et moi je n'ai jamais conçu ce livre comme aucun de mes livres d'ailleurs, pratiquement, sauf peut-être un. Comme pessimiste, si vous voulez, ou noir. Au contraire, il est plein de couleurs et moi, il m'a fait voyager. Bon, il nous a fait voyager et il m'a fait regarder la réalité avec un tout petit peu de peut-être. C'est la force du roman, ça, regardant un petit peu vers l'avant, quoi, comme si on avait des phares un petit peu qui éclairent
un tout petit peu. Un effet de loupe. Ouais.
Voilà. Mais cet avenir n'en est pas moins désirable, si vous voulez. Hein. C'est pas du tout un avenir foutu, désespérant, ni rien. Au contraire, c'est une incitation à s'inscrire là-dedans et en relevant ses défis d'une certaine façon. Voilà. Donc, moi je me suis amusé en faisant ça.
Je pense que vous amuserez à le lire aussi. Et puis comme je disais, il y a beaucoup de personnages que moi j'ai trouvé très drôles. Avec ce professeur, effectivement, et l'histoire de sa perruque, ses chiens, etc. Je vais laisser la parole à la salle s'il y a quelques questions avant de passer aux dédicaces. Lénaïque va faire passer un micro si jamais certains parmi vous. Il y a une personne là. Lénaïque.
Non, une question curieuse, hein. J'ai pas lu le livre encore. Si je comprends bien, le Brunei, comme il a moins de 10 ans de pétrole devant lui, c'est pas le bon candidat pour que ça intéresse à des gens de faire un coup d'État pour récupérer des pépites, puisqu'il n'y en aura plus.
Non, mais justement, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il se pose cette question. Est-ce qu'il vaut mieux, si vous voulez vous emparer d'un État, contrôler un État, est-ce qu'il vaut mieux s'emparer d'un État pauvre ou d'un État riche? Et au fond... ça ne sert à rien de déployer des efforts pour s'emparer d'un État qui est en guerre, qui est en guerre civile, qui est corrompu, etc. Il vaut mieux prendre quelque chose qui tient le coup. Et c'est le cas de ce pays. Mais la richesse, ce n'est pas leur problème, puisqu'eux, ils en apportent. Donc il n'y aura plus de richesse pétrolière, mais au fond, il y aura une autre forme de richesse. Simplement, c'est un pays qui tient bien pour le moment, qui est stable quand même. Hein. Mais d'ailleurs, finalement, en arrière-plan de tout ça, il y a un peu cette question du classement, les hommes les plus riches du monde. Ce n'est pas un hasard si l'homme le plus riche du monde de l'époque, c'était le sultan, et qu'aujourd'hui, ce soit les patrons du numérique. Finalement, il y a une sorte de croisement. Et l'histoire de ce coup d'État, c'est presque un passage de témoin entre deux époques, finalement.
Oui, merci beaucoup d'être là. Moi, j'aurais voulu vous demander quelle est votre routine d'écrivain, ou comment vous travaillez de façon concrète, et quels conseils vous pourriez donner à des gens qui aiment écrire aussi. Voilà, merci.
Ben, moi, je travaille le moins possible, on va dire. C'est-à-dire que, non, c'est vrai, en fait, je fais mes livres très vite, je les écris très vite. Ça, mais je les mûris longtemps. C'est-à-dire que, si vous voulez, alors, ça, c'est bien parce que, vous voyez, vous faites la sieste, vous dites non, c'est pas une sieste, je réfléchis, vous voyez. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que, mais c'est pas faux, c'est-à-dire que, moi, je crois beaucoup au côté, si vous voulez, des petits oiseaux qui font leur nid. Alors, un jour, ils prennent une brindille, l'autre jour, une plume, etc. Puis finalement, tout ça, ça finit par construire un truc. Et quand c'est prêt, à ce moment-là, on le rédige. Mais il y a des éléments là-dedans qui sont venus de longtemps. Parce que la conversation avec le président du Sénégal dont j'ai parlé, c'était il y a près de 15 ans, enfin il y a plus de 10 ans. Donc j'avais gardé ça en tête. Puis bon, par contre, Brunei, on y est allé l'an dernier, vous voyez. Donc tout ça se ramasse comme ça petit à petit. Mais moi, je n'ai pas du tout une routine quotidienne. J'en ai discuté souvent avec des confrères écrivains, par exemple... Douglas Kennedy qui m'avait raconté un jour qui lui qui pleuve qui vente tous les jours 2 heures, et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que tu peux bien raconter pendant 2 heures, et j'ai essayé mais je peux pas, quoi, je veux dire, j'ai rien à dire, vous voyez, ce que il faut que quelque chose se construise, et puis qu'à un moment donné on ait envie de raconter l'histoire. Mais moi je prends toujours le soin, si vous voulez, de penser à la présence du lecteur, c'est-à-dire que je prends quelqu'un sur les genoux et je lui parle, voilà. Et quand je me mets à rédiger le livre, je raconte une histoire. Donc je la raconte comme je la raconterais. Donc pas du tout comme on a fait là, c'est-à-dire que pas du tout en partant des idées, mais en disant, voilà, voilà, il y a un tel personnage et tel personnage et telle scène, et ils se disent ça, et voilà. Et de telle sorte que quand vous allez vous coucher, vous qui écoutez l'histoire, eh bien, d'abord vous endormez, mais pas pendant qu'on raconte, après. Et puis le lendemain, vous avez envie de connaître la suite. Voilà. Et ça, cette espèce de magie, je trouve, du roman classique, justement, c'est de créer cette tension entre les chapitres. Finalement, si on divise... Pourquoi est-ce qu'on fait des chapitres, au fond ? On pourrait voir une seule... Il y a des auteurs qui ont essayé ça, mais une seule torrent comme ça de paroles. Pourquoi on fait des chapitres ? C'est pour que, justement, à certains moments, la scène romanesque disparaît. On ne sait pas ce qui se passe, c'est comme si les choses se passaient dans la coulisse, si vous voulez. Mais il y a une tension, comme entre deux électrodes, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes entre la fin d'un chapitre et le début de l'autre. Le lecteur est quand même dans une tension qui va le porter vers ça. Et l'auteur aussi, parce que moi, quand j'écris ces livres, je les écris vite. Mais j'ai besoin de toute ma concentration, si vous voulez. J'ai pas envie... c'est toujours fragile, vous êtes dedans. Moi, j'avais un ami, comme ça, Thomas Harris, qui a écrit le Silence des agneaux, tout ça, qui m'avait dit un jour, il m'avait dit, j'avais dit, ton dernier livre, là, tu travaillais dessus, là, l'hiver dernier, etc. Il me dit, ah non. Non, celui-là, il est mort dans mes bras. Voilà. C'est-à-dire que, y a des moments où on se dit, ben, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut être soi-même toujours tendu vers autre chose. Maintenant, quand tu as donné des conseils, je m'y risquerai pas trop parce que chacun, évidemment, fait comme il le veut, mais il me semble que c'est nécessaire de s'appuyer sur un exemple. C'est-à-dire que, au fond, le plagiat, j'allais dire, pour employer un mot fort, est pratiquement à l'origine de toute création. C'est-à-dire que si vous avez désespérément envie d'écrire comme, je sais pas moi, comme Alexandre Dumas, faites-le. Et de toute façon, ça ne sera pas Alexandre Dumas. Ça sera autre chose, ça sera vous. Mais au moins, c'est comme un rosier. Vous êtes branché sur une sorte de bouture, si vous voulez, qui est fécond, qui va vous porter plus loin. On n'invente pas tout. De toute façon, tellement de choses ont été écrites que... On sera forcément dans le courant de quelqu'un ou de quelqu'un. Et donc, autant l'avoir identifié, essayer de l'imiter, de s'en inspirer, d'avoir des grands exemples comme ça. Moi, par exemple, j'adore Simenon, par exemple. Bon, ben, j'ai écrit des livres en pensant à Simenon. Par exemple, Le Collier Rouge, je l'avais écrit comme ça. Et c'est pas du Simenon. C'est pas du Simenon. Mais ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'avais l'impression de partir d'un peu plus loin et non pas de zéro. Mais je suis sûr que je ne vous ai pas renseigné beaucoup.
Une question toute courte. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aimiez qu'on vous raconte des histoires?
C'est il y a très très longtemps, laissez-moi me souvenir, parce que... En fait, c'est drôle que votre question est... en fait, on ne m'en racontait pas. Voilà, on ne m'en racontait pas pour des tas de raisons. Parce que, et donc, j'ai beaucoup lu. Alors, dès que j'ai pu lire, j'ai lu. Et probablement, je me les racontais moi-même. Voilà. Mais oui, j'aurais sans doute aimé qu'on me raconte des histoires. Peut-être que le fait de les faire moi-même remplit cette fonction, finalement. J'en ai raconté à mes enfants. Mais maintenant, c'est eux qui m'en racontent. Parce que je...
Merci beaucoup. On va un peu passer aux dédicaces. Merci Jean-Christophe.